Laudetur Jesus Christus.
Chacun est un don pour les autres. Les paroles du pape hier depuis le sanctuaire marial de Sainte-Marie de la Rotonde à Albano, non loin de Castel Gandolfo. Léon XIV y a célébré la messe avant de déjeuner avec des pauvres. Nous y revenons en détail au début de ce journal. L'avenir de l'Ukraine se joue-t-il à la Maison Blanche? Volodymyr Zelensky est attendu chez Donald Trump ce lundi, 3 jours après la rencontre du président américain avec Vladimir Poutine. Zelensky qui emmène avec lui ses alliés européens. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. Dans ce journal également, les manifestations monstres hier en Israël pour demander la fin de la guerre à Gaza, le premier tour de l'élection présidentielle en Bolivie et la gauche au pouvoir depuis 20 ans qui est balayée. Et puis l'invité de notre dossier ce matin, l'archevêque de Douala au Cameroun, Mgr Samuel Kleda. Il interpelle les dirigeants à l'approche des élections pour qu'ils promeuvent le développement du pays et le bien commun.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Depuis le sanctuaire Sainte-Marie de la Rotonde à Albano, le pape Léon XIV a présidé hier la célébration eucharistique en présence du maire de la ville, de la communauté paroissiale, ainsi que des pauvres assistés par la Caritas. Le Saint-Père a dans son homélie salué l'engagement des fidèles du diocèse, tout en rappelant que la messe nourrit la décision de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais d'apporter le feu de l'amour dans le monde. Le compte-rendu signé Myriam Sandounou.
Siamo la Chiesa del Signore, una Chiesa di poveri, tutti preziosi.
Nous sommes l'Église du Seigneur, une Église de pauvres, tous précieux, a précisé l'évêque de Rome, aux fidèles heureux de revoir Léon XIV. Au cours de cette messe, le pape a rappelé que ce n'est qu'ensemble, en devenant un seul corps dans lequel même les plus fragiles participent en toute dignité, que nous sommes le corps du Christ, l'Église de Dieu.
Ognuno è un dono per gli altri. Abattiamo i muri.
Chacun est un don pour les autres, abattons les murs, a dit le souverain pontife, invitant à activer le feu de l'amour qui s'abaisse et serre, qui oppose à l'indifférence le soin et à l'arrogance la douceur, le feu de la bonté et de la charité. Saluons le dynamisme des fidèles du diocèse. Le pape a ensuite conseillé de ne pas laisser le Seigneur hors de nos églises, dans les pauvres au contraire, laissons-le entrer, a-t-il soutenu, et prier ensuite pour que le feu de l'Esprit Saint transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair.
Et possa il fuoco dello Spirito Santo renderli non più cuori di pietra, ma cuori di carne.
Compte rendu signé Myriam Sandounou, le pape qui après la messe a récité la prière de l'Angélus sur la place de la Liberté à Castel Gandolfo. Il y a notamment prié pour que les efforts qui visent à mettre fin aux guerres et à promouvoir la paix aboutissent. Léon XIV est allé ensuite partager le déjeuner au village Laudato Si dans les jardins des villas pontificales avec des personnes démunies prises en charge par la Caritas. Toutes ces informations sont bien évidemment à retrouver à une seule adresse, vaticannews.va. 3 jours après la rencontre en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison Blanche ce lundi. Il doit faire le point sur un éventuel accord de paix avec la Russie concernant la guerre en Ukraine. Mais Volodymyr Zelensky ne sera pas seul dans le bureau ovale puisqu'il a demandé à ses alliés européens de l'accompagner. L'Union européenne, qui veut compter dans ces discussions, la coalition des volontaires a adopté hier une position commune. À Bruxelles, Laxmi Lotin.
Le groupe des alliés de Kiev a réitéré son soutien à une Ukraine libre de choisir son destin, de conserver son intégrité territoriale et de poursuivre son parcours d'adhésion à l'Union européenne, a déclaré Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a rappelé que les sanctions contre la Russie allaient se poursuivre. De nouvelles mesures seront présentées début septembre. La coalition tient aussi à ce que la sécurité de l'Ukraine soit garantie après la fin de la guerre via un mécanisme identique à l'article 5 de l'OTAN. Un pays membre attaqué est automatiquement défendu. Il en va de la sécurité de toute l'Europe, a affirmé le président français. Les Européens seront présents pour Volodymyr Zelensky, mais aussi pour défendre leurs intérêts. Réunie en visioconférence dimanche après-midi, la coalition des volontaires a affiché une position commune. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force et l'OTAN continuera à armer l'Ukraine. Lex Milota, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Volodymyr Zelensky qui a dit vouloir mettre un terme rapidement à la guerre, mais avec une paix durable. Pour Donald Trump, le président américain peut, je cite, « arrêter cette guerre presque immédiatement ». Il s'est exprimé sur son réseau social. Le président américain qui exclut par ailleurs toute adhésion de Kiev à l'OTAN. Et alors que l'on va parler de paix à Washington, les frappes russes, elles continuent sur les villes ukrainiennes. Au moins 4 personnes, dont 2 enfants, sont mortes cette nuit à Kharkiv dans une frappe de drone. On dénonce également au moins 17 blessés, parmi lesquels 6 enfants. La paix, c'est aussi la demande lancée hier par des centaines de milliers d'Israéliens. Dans les rues de Tel Aviv notamment, ils ont défilé hier pour demander la fin des opérations militaires à Gaza et la libération des otages encore en vie. Les familles des otages qui avaient appelé également à une grève générale dans le pays. À Tel Aviv, Julia Ganancia.
Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes d'Israël pour réclamer la fin de la guerre dans la bande de Gaza et un accord négocié pour la libération des otages qui sont encore retenus. Pendant la journée, d'importants axes routiers, notamment l'autoroute reliant Tel Aviv à Jérusalem, ont été bloqués. Au total, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté dimanche. Les organisateurs estiment que plus de 2,5 millions d'Israéliens ont participé au rassemblement à travers le pays, soit plus d'un quart de la population. Dans la soirée, quelques 300 000 personnes étaient présentes à un rassemblement sur la place des otages à Tel Aviv. Dans une nouvelle vidéo enregistrée par le Hamas et publiée dimanche soir, l'otage israélien Matan Zankoger, 25 ans, appelle les dirigeants et la population d'Israël à agir pour obtenir sa libération. Chaque jour, je meurs un peu plus, déclare-t-il dans l'enregistrement. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et cette mobilisation de la société civile israélienne a été vivement critiquée par Benjamin Netanyahou. Selon le Premier ministre, ces manifestations renforcent la position du Hamas dans la bande de Gaza. Les manœuvres de l'armée israélienne pour prendre le contrôle de la ville de Gaza, elles se poursuivent. La situation humanitaire dans l'enclave y reste catastrophique. Ce lundi, Amnesty International estime qu'Israël y mène une campagne de famine délibérée. La junte birmane annonce des élections législatives à partir du 28 décembre prochain. Le pays est pourtant toujours déchiré par la guerre civile. La commission électorale birmane évoque une élection générale démocratique multipartite. Le scrutin est lui dénoncé par des observateurs internationaux et boycotté par l'opposition. Il y aura un second tour à l'élection présidentielle en Bolivie, une première dans l'histoire du pays andin. Les résultats du premier tour organisé hier sont tombés et ont révélé une autre surprise. Ce sont 2 candidats de droite qui s'affronteront au mois d'octobre. La gauche, depuis 20 ans au pouvoir, a été balayée. Les précisions de notre correspondant à La Paz, Nils Sabin.
C'est une élection historique en Bolivie. Tout d'abord, un second tour d'élection présidentielle aura lieu pour la première fois de l'histoire du pays. Et ce ne sont pas un, mais 2 candidats de droite qui s'y affronteront. Le candidat en tête, Rodrigo Paz Pereira, est la grande surprise de ce premier tour. Aucun sondage ne prédisait qu'il obtiendrait plus de 10% des voix, et pourtant il remporte 31% des suffrages. Rodrigo Paz Pereira, fils de Jaime Paz Pereira, président du pays entre 1989 et 1993, semble avoir profité d'un vote rejet de la gauche et de certains candidats de droite. Quant au deuxième candidat qualifié, Jorge Tuto Quiroga, c'est une figure bien connue de la politique bolivienne car il a été président du pays entre 2001 et 2002. Il a un profil assez conservateur. La gauche, qui gouverne depuis 20 ans, subit-elle une véritable débâcle? Son premier candidat n'arrive que quatrième avec 8% des suffrages et le candidat du MAS, le parti au pouvoir, n'obtient que 3,2% des voix. Quant au vote nul, promu par l'ex-président Evo Morales et ses partisans, il s'élève à près de 18%, un record dans le pays. La Paz, Nils Sabin pour Radio Vatican.
Un nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est imputé aux rebelles des ADF. Au moins 9 civils ont été tués hier dans la ville d'Oicha. Elle est située dans la province de Beni. Formée en Ouganda dans les années 90, les rebelles ADF ont depuis gagné le territoire congolais et ont fait allégeance en 2017 à l'État islamique. Hier, le gouvernement à Kinshasa a rappelé par ailleurs sa volonté de défendre l'intégrité territoriale du pays et de restaurer durablement la paix dans l'est de la RDC. Un nouveau cycle de discussions sous médiation qatari s'ouvre ce lundi entre le gouvernement de Kinshasa et des membres de la coalition du M23. La tolérance, le dialogue, la transparence, la justice et la vérité font partie du jeu démocratique. Mais cela n'est pas une réalité au Cameroun. Ce sont les propos de l'archevêque de Douala qui a fortement exhorté la semaine passée les responsables politiques du pays à changer de paradigme. Il les a enjoints à respecter le bien commun pour permettre à tous les Camerounais de profiter des richesses du pays. Dans une lettre pastorale en vue de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au mois d'octobre, Monseigneur Samuel Kleda dénonce le scandale de la misère et une démocratie entachée par la violence institutionnelle. Ces derniers jours, plus de 50 membres de la société civile, activistes des droits de l'homme au Cameroun et membres de l'opposition ont été arrêtés après le rejet de la candidature du principal candidat de l'opposition par le Conseil constitutionnel. Ces interpellations ont été dénoncées par un collectif d'avocats qui déplore le flou autour des gardes à vue administratives, tout en pointant du doigt le mal qui pervertit les relations entre les citoyens et les gouvernants. Monseigneur Samuel Kleda invite les Camerounais à la paix. Il est l'invité de notre dossier ce matin.
J'appelle tout simplement les Camerounais à la paix. Comme nous le savons, la paix, c'est tout ce qui concerne le bien-être de la personne humaine. Et je parle de la souffrance des Camerounais, les couches sociales les plus vulnérables qui connaissent beaucoup de difficultés. Et j'ai essayé, n'est-ce pas, de mentionner ces problèmes-là dans ma lettre pastorale. Et peut-être que l'élection, dont la date est déjà connue, pourra être une occasion, n'est-ce pas, pour apporter des solutions à tous ces problèmes, selon le choix des Camerounais.
Le Cameroun est engagé dans un processus électoral où certains candidats sont déjà exclus de la liste. Qu'est-ce que vous en pensez?
Évidemment, comme tout le monde, je me pose la question. En principe, dans une élection, sous une élection présidentielle, tous ceux qui portent le nom d'opposants, ceux qui sont des opposants, qui se réclament comme tels, on ne devrait pas exclure certains. Tout le monde devrait, n'est-ce pas, se présenter, d'autant plus que peut-être parmi eux, il y a des candidats qui sont forts et qui pourraient, n'est-ce pas, faire quelque chose. Et à travers cela, pour moi, la démocratie doit se manifester. C'est-à-dire, on laisse la liberté, le choix à tout Camerounais, ceux qui militent comme opposants, de se présenter. D'office, on ne devrait pas, n'est-ce pas, écarter certains.
Est-ce que l'absence de certains candidats peut créer un malaise ou être à la base d'une crise post-électorale?
Ben, c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions, parce qu'il y a un candidat à la dernière élection présidentielle. Il était quand même, je crois qu'il avait occupé la deuxième place. Ça veut dire que quand même c'est un candidat honorable sur qui, n'est-ce pas, les gens comptent. Maintenant, on va organiser les élections. Certains candidats ne sont pas là. Je dirais toujours, c'est quelque chose à regretter. C'est-à-dire, tous ceux qui luttent pour être candidats, qui veulent aussi se présenter, ils devraient avoir cette liberté-là de le faire. Pour apporter leur concours au pays.
Est-il possible de faire marche arrière pour donner au processus électoral en cours un visage beaucoup plus inclusif?
Je crois que jusqu'à aujourd'hui, tout est clos. Les candidats retenus sont déjà choisis. Ils sont là. Moi, je ne sais pas, à l'heure actuelle, serait-il encore possible de refaire quelque chose? J'ai un peu de doute. Si la communauté internationale réagit, peut-être que sa voix sera écoutée, mais au niveau du pays, actuellement, il n'y a plus rien à faire. La liste est close.
Dans votre lettre pastorale, vous avez énuméré les maux qui empêchent le développement du pays et qui minent la situation, surtout sociale, de la population. Que faudrait-il faire pour éradiquer ces maux une fois pour toutes?
Tout simplement, nous avons cité, n'est-ce pas, des maux qui minent notre société. Moi, je citerai en tête la corruption qui gangrène notre société. Après ça, par exemple, il y a eu la crise sociopolitique dans notre pays. Mais ce moment-là, on devrait tout faire pour trouver des solutions. Imaginez-vous, quand nous sommes comme presque en guerre, et c'est ce que ça nous coûte, cet argent devrait être, n'est-ce pas, investi dans le développement. Ça ne se fait pas. Ma prière, quand je parle de la paix avant, pendant et après l'élection, c'est pour qu'au sortir de cette élection-là, qu'une solution soit proposée par ceux qui seront élus. Et il faudrait qu'ils prennent conscience de cette situation-là.
Interrogé par Jean-Paul Kamba, Mgr Samuel Kleda, l'archevêque de Douala au Cameroun, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information en direct de Rome, ce sera bien entendu à 13h. N'oubliez pas notre site internet et Vatican News sur nos réseaux sociaux. Excellente journée à tous.